Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Et c'est vraiment, vraiment un honneur de vous avoir ce matin. Le Saint-Esprit m'a conduit à changer mon message pour ce matin. Donc je prêcherai le message de la série de plus en plus fort le week-end prochain, Dieu voulant. Alors que je priais ce matin, en fait, la raison pour laquelle j'ai senti que je ne veux pas prêcher ce message qui était prévu, c'est parce que je ne me sens pas totalement prêt dans mes notes. Et c'est un message qui peut paraître simple, que je vais apporter au week-end prochain, mais c'est un message qui est extrêmement important. Et je n'avais pas envie de... j'ai pas le cœur de le bafouer ou de le diluer. Vous méritez l'excellence et vous méritez à ce qu'on vous donne le top. Et je suis conscient que c'est toujours pour nous un défi de vous donner ce que Dieu veut qu'on vous donne, mais vous méritez de recevoir de la part de Dieu chaque semaine, chaque week-end. Vous venez avec fidélité, avec joie, avec amour, et on veut vraiment ce matin vous remercier. J'aimerais vous demander, si vous voulez bien, juste une dernière fois, donner un tonnerre d'applaudissements à votre voisin. À votre voisine. Réellement, réellement, réellement. Réellement. Et dis-lui merci d'exister, d'être là ce matin. Alors, j'ai le cœur de vous lire avec vous ce matin un chapitre assez long. On va lire ensemble 27 versets. Vous y survivrez, je vous le rassure. 27 versets dans Romains, chapitre 16. Ce sera sur vos écrans et dans vos bibles si vous le pouvez. Prenez des notes quand vous le pouvez. Et on va lire, l'épître aux Romains a été écrite par l'apôtre Paul. Et le contexte est important ici parce que Paul écrit ce qu'on considère dans l'histoire de l'Église, la lettre doctrinale par excellence. Il a été prouvé que si nous devions garder qu'un seul livre dans toute la Bible pour comprendre le cœur de Dieu et comment Dieu travaille le salut, il aurait fallu garder Romains. L'épître aux Romains est l'épître la plus complète, la plus précise, la plus profonde, la moins simple peut-être parfois, mais la plus claire dans ce qui concerne le cœur de Dieu et comment il faut se comporter sur terre. Et l'épître aux Romains nous parle de la doctrine par excellence. Et à la fin de la lettre, celui qui écrit l'épître aux Romains, c'est Eraste. Il écrit sous la dictée de Paul. Et cet homme-là, ou Paul en tout cas, décide de conclure sa lettre la plus doctrinale par Romains 16. Et voyons ensemble ce matin la conclusion de Paul. Il dit, je vous recommande notre sœur Phébé, diacre ou diaconesse de l'église de Sancrée. Une remarque rapidement à tous les chrétiens qui nous écoutent aujourd'hui ou qui vont nous écouter sur internet, ou tous ceux et celles qui pensent que la femme n'a pas sa place dans le service de Dieu, peut-être serait-il bon qu'ils relisent Romains. Et que l'apôtre Paul, dans sa lettre de remerciement, dans sa dernière page de sa lettre aux Romains, à l'époque il n'y a pas de chapitre, il commence en disant « Je vous recommande ma sœur, Phébé ». Il dit ensuite « Réservez-lui comme à quelqu'un qui appartient au Seigneur l'accueil que lui doivent des chrétiens. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous. Car elle est intervenue en faveur de beaucoup et en particulier pour moi. Saluez Prisca, tiens, une autre dame. Et Achias, mes collaborateurs dans le service du Christ Jésus. Ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne. Je ne suis pas seul à leur en devoir gratitude. C'est aussi le cas de toutes les églises des pays païens. Imagine, toutes les églises des pays païens devaient remercier Prisca ou Priscilla et Achias. En une parenthèse, vous trouverez l'histoire de ce merveilleux couple dans Actes chapitre 18. lorsque Paul est dans la dèche la plus totale et qu'il est seul, Akias, qui est un juif, et son épouse Priscilla ici, décident de le prendre chez eux. Et comme ils sont aussi faiseurs de tentes et que Paul était faiseur de tentes, ils décident de travailler ensemble et Paul va vivre chez eux pendant une saison. Et Paul considère cet acte comme un acte de salut pour sa propre vie. Il dit « Ils m'ont sauvé la vie ». Nous n'imaginons pas ce que nous pouvons faire en recevant quelqu'un chez nous un soir où il est déprimé, stressé ou abandonné. Le simple fait de le recevoir peut lui sauver la vie. Verset 5, saluez aussi l'église qui se réunit dans leur maison. Saluez mon cher Épanette, il est le premier à s'être tourné vers le Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie, tiens, une autre femme qui s'est beaucoup dépensée pour vous. Saluez Adronicus et Junia, mes compatriotes, ils ont été mes compagnons de captivité. Ce sont des apôtres remarquables qui se sont même convertis au Christ avant moi. Saluez Ampliatus, qui m'est très cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre collaborateur dans le service de Christ, ainsi que mon cher Stachis. Saluez Apelles, qui a prouvé son attachement au Christ. Saluez aussi les gens de la maison d'Aristobule. Si vous cherchez un prénom pour vos enfants, il y en a plein ici. Et Hérodion, mon compatriote. Saluez les gens de la maison de Narcisse qui appartiennent au Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphos, tiens, voilà pour les jumeaux, qui toutes deux travaillent pour le Seigneur, ainsi que ma chère Perside, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Paul continue à dire, saluez, merci pour ce qu'ils font, ils travaillent, saluez, merci parce qu'ils travaillent, saluez-les, merci parce qu'ils travaillent, continuez à le faire. Saluez Rufus, cet homme de grande valeur, et sa mère, qui est aussi une mère pour moi. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et tous les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, Olympas et tous ceux qui appartiennent à Dieu et sont avec eux. Paul me casse. Saluez-vous les uns les autres en vous donnant le baiser fraternel. Toutes les églises du Christ vous adressent leurs salutations. Je vous engage instamment, chers frères, à prendre garde à ceux qui sèment la division. Égare les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car les gens de cette sorte ne servent pas le Christ, notre Seigneur, mais leur ventre. Avec leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils séduisent ceux qui ne discernent pas le mal. Votre obéissance est connue de tous, et cela me remplit de joie. Mais je désire que vous sachiez discerner le bien et que vous soyez incorruptibles à l'égard du mal. Le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. Timothée, mon collaborateur, ainsi que mes compatriotes, Lucius, Jason, Sosipater, vous salue. Moi, Tertius, qui écrit cette lettre, donc il écoute Paul et il écrit, j'ajoute mes propres salutations dans le Seigneur qui nous unit. Vous salue encore Gaius qui m'offre l'hospitalité et chez qui se réunit toute l'église. Eraste, le trésorier de la ville, ainsi que le frère Quartus. Béni soit Dieu, il a le pouvoir de vous rendre fort dans la foi, conformément à la bonne nouvelle que je prêche. Elle est le message de Jésus-Christ et dévoile le plan de Dieu tenu secret pendant les siècles passés, et qui s'accomplit de façon manifeste dans nos jours. Comme l'a ordonné le Dieu éternel, il est porté par les écrits des prophètes à la connaissance de tous les peuples pour qu'ils soient amenés à lui obéir en croyant. À ce Dieu qui seul possède la sagesse, soit la gloire, le siècle en siècle par Jésus-Christ. Amen. Il termine cette lettre doctrinale, profonde, riche, puissante, glorieuse, extraordinaire, par une liste de personnes qu'il veut remercier. Il passe du temps à se dire, Seigneur, avec qui je travaille en ce moment? À qui tu m'as uni? Qui sont mes collaborateurs? Seigneur, je veux prendre le temps dans tout ce que j'accomplis pour toi. Je veux bien réfléchir à tous ceux et celles que tu as mis sur ma route. ceux et celles qui servent ton nom avec moi, ceux qui m'ont sauvé la vie, ceux qui m'ont béni, ceux qui m'ont aidé, ceux qui m'ont donné des finances et du temps et leur maison, je veux prendre le temps de les remercier. Il y a 33 noms qui apparaissent dans cette liste et beaucoup de gens non connus. Ces 33 noms, il y a 25 hommes et 8 femmes. Et Paul prend le temps de les remercier. Et quand j'ai lu ce passage ce matin, je me suis dit, je me demande si les gens qui travaillaient avec Paul à l'époque étaient conscients du fait que Dieu était en train de noter tous leurs actes et en train de consigner non pas ce qu'ils ont accompli, mais ce qu'ils ont été. Je veux dire, dans cette épître, il n'y a pas de détails sur ce que les gens ont fait pour Dieu. Mais leur nom apparaît comme si ce qui importe le plus pour Dieu, ce n'est pas le projet que tu as à faire pour lui, parce que tu es son projet. Ce qui importe le plus pour Dieu, c'est les relations que vous et moi nous tissons pendant que nous travaillons pour Dieu. Et en fait, quand nous travaillons pour Dieu, si nous ne construisons pas de relations, alors nous travaillons contre Dieu. Parce que travailler pour Dieu sera toujours comme première chose à faire dans notre cœur. Le but premier du travail pour Dieu est de construire les relations. Les hommes et les femmes que nous sommes sont le projet de Dieu. Et les hommes et les femmes que nous avons autour de nous sont les projets de Dieu. Qu'est-ce qui définit une belle famille? Ce sont de belles relations. Ce n'est pas le look, ou le physique, ou l'argent, ou la maison que tu as, ou les fringues que tu portes. C'est la relation que tu peux avoir avec ta femme et tes enfants. Qu'est-ce qui définit un beau groupe de louanges? Ce n'est pas les instruments et leur musique, c'est le fait qu'ils peuvent se regarder en face et se dire « Je t'aime, je suis avec toi, tu es mon ami, tu es mon frère, tu es ma sœur, merci d'exister, je suis avec toi dans l'œuvre de Dieu. » Ce qui caractérise une belle église, ce n'est pas les belles chaises ou la belle salle, et on aura une belle salle un jour. Ce qui caractérise une belle église, ce sont les belles relations qui brillent à distance. Non pas les relations entre un pasteur et une église. Non, ça c'est trop factice. Non, une relation les uns avec les autres. Chacun les uns pour les autres. Les uns avec les autres. Servez-vous les uns les autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Encouragez-vous les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres. C'est ce qui caractérise une église selon le cœur de Dieu. Et Paul dit, je vais prendre le temps d'écrire la liste des noms des gens qui m'ont béni, qui m'ont encouragé, qui sont avec moi toutes ces années. Et il les connaît personnellement. Ça fait 3 mois que je suis dessus et j'ai commencé à lire chaque nom et je veux savoir pourquoi est-ce que Paul a pensé à cette personne particulièrement. Et Seigneur, pourquoi tu n'as pas dit ce qu'ils ont fait? Dieu m'a dit, parce que ce qu'ils font ne sera jamais aussi important que ce qu'ils sont. Bien sûr que ce que tu fais est important, mais ce que tu fais est la conséquence de ce que tu es. Tu ne fais pas pour devenir. C'est parce que tu es que tu fais. C'est pour cela que quand je vois cette dame-là, il dit « Honorez Phébé, cette sœur de l'église, cette diaconesse, réservez-lui comme à quelqu'un qui appartient au Seigneur l'accueil que lui doivent les chrétiens. » Et je vous rappelle une chose, à l'époque, il n'y avait pas encore la loi sur la parité. Il n'y avait pas ce combat féministe qui, trop souvent, est hors de propos. Les femmes veulent devenir des hommes parce que les hommes ne sont pas des hommes. Si un homme est un homme, la femme veut rester une femme. L'égalité, ce n'est pas être identique. L'égalité, c'est célébrer la différence. Et Paul dit ici, je veux remercier cette femme-là pour ce qu'elle a fait. Et je me demande comment est-ce qu'ils auraient fait les choses s'ils savaient que Dieu notait leur nom dans son livre. Et je me demande si les gens qui les entouraient travaillaient avec eux, je me demande s'ils disent pas, hey Paul, t'es en train d'écrire la lettre avec tous ceux qui travaillent avec toi, je peux travailler avec toi s'il te plaît? Et je me demande comment vous et moi ce matin nous réagissons par rapport à ça. Est-ce que nous sommes conscients que Dieu est en train d'écrire notre nom dans le livre de son histoire avec le monde? Et j'écris le nom de Mark Bredenkamp pour tout ce qu'il a accompli, parce qu'il a bénit telle personne et fait telle chose, et il écrit le nom de Mark Bredenkamp. Et il écrit le nom d'Emmanuel. Et le nom de Jean-Max et Henri. Et Stéphanie et Elodie. Et elle écrit le nom en disant, regarde, cette équipe-là, elle a existé, c'est mon équipe. Et mon message ce matin, le titre de mon message, c'est « Faire équipe avec Dieu ». Est-ce que tu veux faire équipe avec Dieu ? Vous savez, être membre d'une église locale, c'est le minimum requis, le minimum syndical. Parce que la réalité, c'est faire équipe avec Dieu. Et quand je fais équipe avec Dieu, je fais équipe avec ceux qui font équipe avec Dieu. Et je me demande combien de gens auraient changé leur façon de vivre et même de servir avec Paul s'ils savaient que Dieu était en train de noter tout ce qu'il faisait, et si Dieu est en train de dire lui je le remarque, elle je la remarque, lui je le remarque, elle je la remarque. Si tu sais que Dieu va mettre ton nom dans la lettre de Paul, peut-être serais-tu influencé à faire les choses mieux. Mais la réalité, c'est que maintenant même, Dieu est en train de nous regarder et il écrit tout ce que nous faisons et il écrit tout ce que nous devenons. D'ailleurs, il a écrit ce que nous devenons. Si nous sommes connectés à lui. Vous savez, quand nous prophétisons notre futur. Quand Christ prophétise, il prophétise notre passé. Parce que lui est dans le futur. Il a vu notre futur, qui pour lui est le passé. C'est une bonne nouvelle. Parce que si nous, on doute un peu de ce qu'on peut dire et faire et vouloir faire, lui ne doute pas du tout, il sait exactement ce qui est prévu. Regarde ton voisin et dit, get with the program. Si on est bilingue ici, on... Ça veut dire connecte-toi à son plan. Dis à ton voisin, il est temps pour toi de faire son plan. Regarde ton voisin et dis, ne me sous-estime pas. Écoutez bien ça, Église. Je ne vais pas être très long, mais écoutez bien cela. Paul écrit cette fameuse liste de gens qui me touchent beaucoup parce que je me rends compte qu'un homme comme Paul qui a planté des églises dans le monde entier, qui a secoué le monde entier, prend le temps d'écrire la liste de ceux et celles avec qui il travaille. Et il dit en substance, je ne sous-estime personne. Autour de moi, je ne veux sous-estimer personne. Tous ceux et celles que Dieu a mis dans ma vie, je ne veux pas les sous-estimer. Je vais remercier Dieu pour ceux et celles que Dieu a mis dans ma vie. Avez-vous déjà essayé de faire cette liste-là ? Vous écrivez votre liste de gens que Dieu a mis dans votre vie et qui vous a aidé à devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Et même si quelqu'un vous a fait souffrir, vous avez goûté à la grâce de Dieu, grâce à son erreur et son échec. Ton père t'a trahi, et même tu connais maintenant la richesse d'un père qui pardonne. Vous savez, si vous et moi, nous faisons face à aucun problème, aucun échec, aucune douleur, nous n'aurons jamais la véritable profondeur de l'identité du Père. Si tout va toujours bien pour toi, tu n'auras jamais la révélation de qui Dieu est. Mais à chaque obstacle, Dieu révèle une nouvelle facette de qui il est. Tantôt il est un Père, tantôt il est le maître de la tempête, tantôt il est celui qui t'enseigne la patience, tantôt il est le roi qui règne, tantôt il est l'ami qui pleure avec toi. La vie que nous vivons, c'est une vie que Dieu permet afin de découvrir qui il est lui. Parce que nous sommes son projet. Regarde ton voisin, dit, tu es son projet. Et Paul dit ici, tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait sans cette aide précieuse de tous ceux et celles qui m'entourent. Ne sous-estime pas celui ou celle qui t'entoure et ne sous-estime plus jamais avec qui tu travailles pour le Seigneur. Parce que faire équipe avec Dieu, c'est faire équipe avec ceux avec qui Dieu fait équipe. C'est pour cela qu'à Extravagance, vous ne devez jamais critiquer d'autres églises. Qu'on comprenne ou pas, sauf si c'est une doctrine grave, je peux comprendre si c'est anti-Christ, on peut le dire. Mais il y a de nombreux chrétiens sur cette terre et à La Réunion qui n'ont pas exactement la même doctrine que nous. Mais elle n'est pas essentielle. Tant qu'il croit que Christ est son Seigneur et son Sauveur, il est mon frère et elle est ma sœur. Voilà la vérité. Ils font équipe avec Dieu. Ce passage que le pasteur Steve me rappelait il y a quelques mois en arrière, je ne sais plus en tête, peut-être que tu vas me rappeler Steve dans un instant, mais où Jésus, les disciples viennent voir Jésus, ils disent à Jésus, Jésus, ce gars-là, il prêche, je paraphrase, il te prêche, mais ils ne sont pas avec nous. Et Jésus dit, alors, s'il n'est pas contre moi, il est avec moi. Où est l'église de Christ ce matin ? Qui est capable de prendre les noms des hommes et des femmes qui travaillent pour le roi des rois avec leurs erreurs, avec leurs problèmes et les célébrer en disant merci pour ce que tu fais. Où sont les chrétiens qui décident de valoriser ce que les gens font et qu'on arrête de critiquer ce qu'ils ne font pas ou ce qu'ils font mal? Le temps est venu pour Extravagance de briller avec d'autres églises locales en France et à La Réunion en disant Jésus est avec toi, Dieu le Père te regarde, tu fais partie de son équipe, tu vas réussir, je suis avec toi, je suis fier de toi. Et on commence à faire la liste de ceux et celles qui travaillent avec Dieu. Et si vous connaissez des gens que vous avez blessés, allez demander pardon. On dit excuse-moi, j'ai voulu que tu serves Dieu à ma façon. Et en faisant ça, je t'ai empêché de servir Dieu à sa façon. Et Paul dit, lui est avec moi, elle est avec moi, femme, homme. Alors j'aimerais finir en vous lisant 1, 2, 3, 4, 5 passages bibliques, courts. Je voulais lire au moins 44. Hébreux 10, 24 nous dit « Et veillons les uns sur les autres. » Ma plus grande frustration, ma plus grande douleur, ce qui me cause vraiment du stress, et c'est le seul stress que je peux avoir vraiment, c'est que je suis incapable de prendre soin de chaque membre de l'église. Et quand quelqu'un vient me voir en me disant « Je me sens seul parce que tu ne m'as pas appelé, pasteur, ou tu ne viens pas me voir », je me sens incapable de le faire. Je ne peux pas visiter 1200 membres. Et j'entends Dieu qui me dit « Ce n'est pas ton rôle. Le rôle de l'église, c'est veillons les uns sur les autres. » Parce que si tout le monde fait ça, on peut tous être libres et personne ne peut veiller sur 1200 personnes. Mais on peut veiller sur un ou deux ou trois ou quatre personnes, chacun d'entre nous. On veille les uns sur les autres. Tantôt vous veillez sur moi, tantôt je veille sur vous et tout le monde veille les uns sur les autres. Et l'église est grandie, l'église est bénie, elle est protégée. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Si vous voulez, le titre final de mon message, c'est « Faire équipe avec Dieu, c'est pratiquer le bien ». Comment est-ce que je vais remarquer que quelqu'un fait équipe avec Dieu? Il pratique le bien. Et pratiquer le bien, c'est construire les gens. Je veux dire, pratiquer le bien, ce n'est pas construire une belle maison. Gloire, écoutez bien ça, gloire à Dieu pour une belle maison construite. Mais ça, ce n'est pas le bien. Ça c'est fun, c'est cool, mais c'est pas le bien. Le bien c'est quand ta maison devient havre de paix pour ceux qui souffrent. Ça c'est pratiquer le bien. Avoir une belle voiture, c'est super, mais ça c'est pas le bien. Avoir une belle voiture que tu peux prêter quand tu peux, sans être limité par les assurances, sans avoir peur, tu prêtes ta voiture, tu viens prendre ton frère, ta soeur, tu n'es pas lié par ce que tu possèdes. Tu te sers de ce que tu possèdes. Cette semaine, des amis à moi, trois familles je crois à l'église Extravagance ont eu un accident ou un accrochage, voiture bousillée. La minute d'avant, ils ont une voiture. La minute d'après, ils n'ont plus de voiture. Matériel. Mais ce qu'ils ont, c'est l'amour des frères, l'amour des sœurs, l'amour des gens qui prient avec eux, qui les encouragent. Et sûrement, ils auront des frères qui vont dire « Je vais passer te prendre tous les jours jusqu'à ce que tu aies une nouvelle Porsche. » C'est ça, faire le bien. Ou tu sais, j'ai 5 voitures, j'ai 3 voitures, j'ai 14 camions, je vais t'en prêter un pour la semaine, t'inquiète pas, c'est bon. Ou j'ai pas mal d'argent sur mon compte, j'ai plein de cash qui traîne sur mon compte. Je vais te louer une voiture pendant 2-3 mois. Et tout d'un coup, tu commences à faire le bien, tu as quelque chose qui se... Pratiquer le bien. Encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. L'amour gagne toujours si elle pratique le bien. L'amour gagne toujours si l'amour pratique le bien. 2, Thessaloniciens 3, verset 13, il dit, et vous, frères, entre parenthèses, c'est valable pour les sœurs aussi, ne vous lassez pas de faire ce qui est bien. Ne vous lassez pas. Ne vous arrêtez pas. Ne vous découragez pas. Même si c'est dur, même quand ça vous paraît impossible, faites toujours le bien. Extravagance, faisons toujours le bien. Quand c'est impossible, faisons le possible. Et Dieu fera l'impossible. Matthieu 5, 16. Je m'excuse, j'écris comme ça, je ne vais pas me lire. Matthieu 5, 16 me dit, c'est ainsi, et c'est Christ qui parle, que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Est-ce que les gens peuvent voir le bien que nous faisons? Paul pouvait écrire une lettre parce qu'il avait vu le bien que les gens faisaient autour de lui, pour lui, en sa faveur, en faveur de l'église. Il disait, remercie telle sœur pour ce qu'elle a fait, remercie tel frère pour ce qu'il a fait, remercie telle sœur pour ce qu'elle a fait. Et prendre le temps de remercier en remarquant ce que les gens font de bien. Leur lumière brille, votre lumière brille. Et moi, j'aimerais vous dire du fond du cœur que vous m'inspirez à vivre pour Christ. Vous êtes ma source d'inspiration. J'entends des témoignages toutes les semaines avec Pasteur Steve et l'équipe. On lit des choses, on se dit c'est pas possible. Michael Legras qui fait des choses, là on se mange, je dis waouh. Bénédicte, Johnny. Les gens qui disent je vais ouvrir ma maison pour un groupe de maison. Et j'entends les gens dans un groupe de maison, la sœur demande pardon à sa sœur pour l'avoir blessée. Comme ça en plein live dans le groupe, tout le monde pleure ensemble, on demande pardon, c'est beau. C'est pas de la religion, c'est pas du pipeau, c'est pas du wang, c'est beau ça. Cœur à cœur, relation, merci d'exister. Voici ma liste des gens que je vais honorer aujourd'hui. Les gars du parking, comment tu vas Bruno? Bienvenue, c'est bon de te revoir. Et ce gars-là qui vient me voir, ce jeune frère qui vient me voir, cette semaine qui me dit, tu sais, tu nous as manqué. Ah ouais, mais franchement, et des fois, je sais pas. Et des fois, Jab m'attaque, il me fait croire que quand je pars une semaine, ça vous fait un break. Je suis sérieux, on est vrai là. Et puis Dieu se sert d'un jeune homme. Hey, tu nous as manqué. Les gars m'écrivent un SMS, tu nous as manqué, pasteur, c'est cool de te voir. C'est pas pareil sans toi. Je fais waouh, il est sincère ou pas sincère? Sa parole me touche et m'encourage. Je me dis, c'est exactement ce que Paul faisait. Remercie-le, remercie-la, remercie-le, remercie-la. Je vois des frères à soir sur Facebook, ils font une soirée, ils ont paquet de pizza, ils sont trois, il y a cinq boîtes de pizza, il y a un souci quand même, mais bon. Et ils disent, super soirée avec les copains, j'aime ça. Je vois les gens qui font du sport la semaine. L'autre fait du vélo. L'autre marche avec sa femme sur la plage et il dit, j'aime mon épouse sur la plage. J'aime ça, la vie est belle lorsqu'elle est vécue dans l'amour. L'amour gagne toujours quand tu pratiques le bien. Dépose ton téléphone, prends ta fille dans tes bras. Éteins ta télévision, parle avec ta famille. Change de maison, prends plus petit et fais un voyage avec ton épouse. À Mafat le bain. Demandez à la plus. Allez, 9 femmes sur 10. Vous lui dites, allons faire un voyage, chérie. Je t'emmène à New York ou je ne sais pas quelle ville. Et tu fais des magasins et tu as carte blanche sur carte bleue. La plupart des femmes diraient, tu es mon héros. La plupart des femmes. Celles qui ont vraiment dit, je veux vivre. Une femme, elle aime ça. Pas toutes les femmes, mais en général, une femme qui a envie de vivre, parce que vous avez été créé comme ça, vous aimez prendre soin de vous. Vous n'avez qu'à voir le nombre de maquillages qui sort à la seconde. Ma fille de 11 ans m'envoie des emails. Papa, comme tu es à Paris, peux-tu prendre pour moi telle marque Kiko, Claire's, Chanel. Je sais pour après, Chanel, c'est pour après, hein, pas Kiko. Mais, mes amis, et si ce matin, on prenait la décision de valoriser ce que Dieu valorise. Et pour valoriser ce que Dieu valorise, écoutez bien cela, il faut pratiquer le bien. Et pratiquer le bien, c'est très large. Ce n'est pas seulement prêcher dans un stade avec 1 million de personnes, c'est bien ça. Et ça peut être, et c'est sûrement ça ce matin, prendre ta femme dans tes bras et te dire, je ne suis pas habitué à le faire parce qu'on ne m'a jamais appris à le faire. Mais aujourd'hui, je veux faire ce que Dieu veut que je fasse. Mes parents ne m'ont jamais aimé, peut-être, mais aujourd'hui, tu es chrétien, donc tu peux aimer. Tite 3. C'est là une parole certaine et je veux que tu insistes fortement sur ce chose afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à accomplir des œuvres bonnes, s'appliquent intentionnelles, décisions. Je décide de voilà ce qui est bon et utile aux hommes. C'est utile de pratiquer le bien. Et Romains 12, verset 20-21. Mais votre part est celle-ci. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Si Dieu me demande, et s'il vous demande ce matin, d'aimer ton ennemi, de le servir, de lui donner à manger s'il a faim, à combien plus forte raison ne devrions-nous pas faire la chose suivante avec nos frères et nos sœurs rachetés par le sang de l'agneau. Combien ce matin vous commencez à comprendre, et vous les jeunes et les moins jeunes, comment sa parole peut vous donner une telle richesse simplement en lisant une liste de noms. Et vous rendre compte que rien avec Dieu n'est au hasard. Cette liste de noms, c'est la liste des amis de Paul qui ont fait de Paul ce que Paul est. Ces amis-là qui ont été avec Paul ont été des instruments de Dieu pour tailler l'apôtre Paul dans la masse, pour l'amener là où il était. S'il y a une chose que je ne supporte pas vraiment aujourd'hui, c'est quand on dit « Oh Bruno, ton église, mais ce n'est pas mon église, c'est l'église de Christ, et c'est notre église. Je ne suis totalement rien sans vous. » Rien du tout, sans ma femme et mes enfants, sans mes amis, rien. Parce que ce qui compte, c'est les gens avec qui Dieu m'a placé aujourd'hui. Et ce qui compte, c'est que si ma relation est à moins 20, et que je me mets à aimer comme Christ aime, un jour elle sera à plus 20. Dieu est le spécialiste des situations impossibles. Confie à ton roi ce matin ta situation impossible. Un cœur brisé, un mariage qui bat de l'aile, des enfants en rébellion, un compte bancaire qui connaît que le rouge et pas le vert. Et c'est bon de prier pour un miracle financier, mais le vrai miracle financier, c'est toi. Vends une voiture, vends tes timbres, travaille plus dur, demande à Monsieur Hollande de te permettre de travailler 35 heures par jour pour une saison, prie pour des connexions, fais les bons choix et tu verras si Dieu ne te bénit pas. Regarde ton voisin et dis-lui, tu es un don de Dieu pour moi. Voilà, même si c'est la femme d'un autre, c'est pas grave. Je ne sais pas si vous avez ça, et je vais conclure avec ça ce matin. Je ne sais pas si dans votre vie vous avez ce genre de relation où moi je peux appeler Steve à n'importe quelle heure et dire Steve, j'ai faim, je peux bien manger? Mais, ouais, bien sûr. Hier soir j'étais chez moi et puis j'ai appris que, enfin bref, mes cousins allaient manger chez Steve, c'était ton Michel en fait. Et j'ai écrit à Steve, je peux bien manger chez ton père avec toi. Et Lodi avait les enfants à garder, elle avait plein de trucs à faire, ça. Elle m'a dit, chérie, vas-y, t'inquiète pas, c'est bon, je m'occupe de la maison, tout ça. Et j'ai dit, ouais, je vais faire un tour. Et quand j'ai écrit à Steve, son père, Michel, c'est une star, me touche beaucoup. Son père lui dit, mais j'aurais préféré que tu ne me dises rien pour avoir la surprise de voir Bruno arriver. Je trouve ça super beau. Elle a pas dit, ah non, j'ai pas prévu, il y a une place en trop, comment à faire? J'ai pesé chaque grainerie pour chaque gars. Parce que malgré ma corpulence, je mange plus que vous croyez. Et j'aime ça. Vous savez où? C'est spontané. Parce que l'amour est spontané. Écoutez bien cela. À chaque fois que tu vas raisonner l'amour à outrance, il faut réfléchir, mais ne pas le raisonner. L'amour réfléchit. Aime ton Dieu avec ton intelligence. L'amour réfléchit, ça veut dire ton cœur comprend son amour, mais l'amour ne raisonne pas. Par exemple, ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Il ne raisonne pas. Il réfléchit. Qu'est-ce que Dieu dit? Comment puis-je le faire? Comment dois-je le faire? Oh, j'ai un frère qui a plus de voiture. Oh, on est 1200 membres par putatis. Je veux dire, on peut très bien trouver un gars dans l'église qui pourrait peut-être faire un taxi pendant 2 semaines. Oh là là, il y a un silence. Peut-être qu'on a 5 télévisions. Peut-être que tu n'as pas 5 paires de yeux. Peut-être. T'as une télévision, il t'en restera 4. C'est quand même cool. Et t'as pas 4 paires de yeux. Vous comprenez maintenant ce qui se passe? Et si vous ne croyez pas, relisez Romains 16, verset 1. Une dernière fois avec moi dans le contexte. Je vous recommande. Notre sœur Phébé, diaconesse de l'église de Sancré. Il parle même pas du pasteur principal. Trop fort. Des anciens prophètes et apôtres. Alléluia. Et je suis pour l'honneur, d'accord, mais il parle de la personne qui a le plus marqué sa vie à Sancré ou Sancré, je sais pas comment on prononce ça. Il dit, réservez-lui comme à quelqu'un qui appartient au Seigneur l'accueil qu'ils doivent des chrétiens. Mettez-vous à sa disposition pour quelques trucs seulement. Quand on a envie, si tu as la révélation du truc, non, mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous. Car elle est intervenue, écoutez bien ça dans le contexte, en faveur de beaucoup et en particulier pour moi. Et je vais essayer de vous dire ça en quelques secondes. Ouh là, il me reste 45 secondes, ça va être chaud. Quand quelqu'un m'appelle en pleurant, pasteur, j'ai plus de voiture, je sais pas comment faire, et que je prie pour une solution, et qu'elle m'appelle 2 jours plus tard, pasteur, un frère me prête sa voiture, je vous garantis que je suis extrêmement béni, et je prie pour ce frère qui a pris sa voiture en disant, tu vois, là, t'as fait un acte de faveur envers une sœur, tu as béni ton roi, t'as partagé tes biens, ce que tu as ne te possède pas, ce que tu possèdes est à Dieu en fait. Et si tout le monde commence à vivre comme ça? Moi j'ai essayé cette semaine. J'ai essayé de prendre 3 stylos et écrire en même temps que 3 stylos. Ça marche pas! J'arrive pas avec 3 stylos. 1 suffit! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Moi, j'aurais prié, notre Père, hein, donne-moi aujourd'hui les pains de tous les jours. Mais Jésus prie dans sa sagesse, aujourd'hui, il me faut le pain pour aujourd'hui. c'est bien de prévoir. Mais si prévoir t'interdit de dépendre de Dieu, alors tu dépends trop de toi. Et quand les relations passent avant tout, les prévisions deviennent des provisions. Vous relirez chez vous, mes chers amis, Romains 16, en disant « Saint-Esprit, parle-moi aujourd'hui. » Et je vous mets au défi de remplacer les noms de vos futurs enfants. Phébé, Aristotle, tout ça, c'est ouf. Et remplacez ça par ces noms-là par des noms de gens que vous connaissez. Celui qui m'a emmené au Seigneur. Ma mère dans la foi. Mon pasteur. Un ami. Et vous allez vous rendre compte que vous aussi, vous avez Romains 16 dans votre vie. Peut-être qu'il n'y aura pas 33 noms. Peut-être qu'il n'y aura qu'un seul. Mais une relation selon Dieu, vaut toutes les relations sans Dieu. Ce matin, j'aimerais demander à l'église Extravagance, si vous avez envie avec moi de devenir l'église selon Romains 16. C'est-à-dire une église qui valorise ce que Dieu valorise, c'est-à-dire nos relations. Si un frère tombe, agenouille-toi avec lui, parle-lui et relève-le en te relevant. Quand quelqu'un tombe, il tombe dans les bras de Christ. Personne ne peut tomber hors de sa grâce. Le seul passage que Paul dit « Éloignez-vous de ceux qui causent des divisions », ce sont ceux justement qui sont contre les relations, qui ne pensent qu'à leur ventre. Là, Paul dit « Eux, ne les fréquentent pas. Ne les fréquentent pas. S'ils causent des divisions, s'ils brisent des familles, s'ils brisent des couples, s'ils brisent des enfants, s'ils... là, tu t'éloignes d'eux, jusqu'à repentance. Mais tout le reste du temps, établissons Romains 16 dans notre vie. Faites votre liste de vos amis, de ceux que vous aimez. Ce message est né dans mon cœur cette semaine où j'étais en France et je priais pour Philippe. Philippe Pinault. Et je me suis souvenu, ça fait des années qu'on se connaît. Je ne sais plus combien d'ailleurs, presque 20 ans je crois. À l'époque, on était beau et fort. Lui est toujours beau. Moi, je suis fort. Et je me suis mis à pleurer, Philippe, de gratitude pour ta vie. Et je me suis dit, mince, je ne lui ai pas dit ça depuis des mois. Que je l'apprécie, que je compte sur lui, que c'est l'un des très, 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 très rares. Il ne m'a jamais trahi. C'est vachement rare dans une vie. Je vais être franc avec vous, on se trahit tous plus ou moins un jour et on vous demande pardon, on se critique dans le dos. Alors, je veux remercier Philippe ce matin devant tout le monde. Ça va être ma Phébé du verset 1 ce matin, même si c'est un gars. Vous appelez Phébus. Je ne sais pas si aujourd'hui vous avez envie de voir quelqu'un, d'écrire à quelqu'un, de dire à quelqu'un, même si vous avez déjà fait dans le passé, tu as été là pour moi et je ne veux jamais l'oublier. Et j'espère être là pour toi. Tu n'oublieras jamais. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin, Église? Je suis désolé si mes larmes coulent, c'est parce qu'il fait chaud. Excusez à deux francs. Alors je me suis dit, mais mince, Seigneur, j'ai pas dit ça à Philippe depuis des mois et je me demande comment il se porte, comment il va. Et puis comme ça arrive souvent entre Elodie et moi, on a une belle connexion aujourd'hui. Elle a pensé elle aussi à Philippe cette semaine ou la semaine juste avant, quelques jours avant moi ou la veille ou le jour même, je sais très bien. Et là je sais que c'était Dieu, je dis ok, je me suis mis à lire. Vous savez moi ce que j'aime faire, c'est lire la Bible et juste voir si Dieu me parle, comment Dieu me parle. Et là il m'a parlé beaucoup sur Philippe et sur vous tous. Alors ce matin, je ne sais pas comment vous le dire, Mais la personne qui est à vos côtés, ou celle qui est chez vous ce matin, ou votre maman, votre grand-mère, votre tonton, ils sont vraiment importants. Vraiment importants. Plus importants que votre petit chien, votre poisson rouge, votre petit chat. Et non, je ne sais pas s'il y aura un petit chat au ciel, je ne sais pas. Sève, quasiment chaque semaine on me demande ça. Pasteur, tu crois, toi, qu'il y aura mon petit chien au ciel? Je ne sais pas. Aime-le sur terre, tu ne verras peut-être pas au ciel. Et Paul, je crois, il dit à Tite, ou je ne sais plus qui, il dit, aux Romains, il dit, et vous devez surmonter le mal par le bien. Ça veut dire qu'on aime les gens pas parce qu'ils méritent. On aime les gens parce que Dieu nous aime. J'étais au restaurant avec Rudy Tazard. Qui connaît Rudy Tazard? Je passais des rentrées, mais Rudy, c'est le mari de Karine qui a écrit les chants qu'on chante souvent ici. Et je demandais à Rudy, Rudy, comment tu fais pour servir Dieu en ce moment? Comment ça va, mon frère? On a une très belle réunion ensemble. Et il m'a donné une bombe, il m'a lâché une bombe. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de fou, là? Il m'a dit, tu sais, Bruno, il m'a dit, je ne sers pas Dieu en dépendant de l'amour que je lui porte. Il me dit, je sers Dieu en me reposant et en dépendant de l'amour qu'il me porte. Il me dit, parce que je sais que mon amour va fluctuer. Il me dit, je sais que mon amour va être un coup en haut, un coup en bas. Et je sais que mon amour va toujours instable. Un matin, je vais me réveiller, je n'aurai pas forcément de l'amour pour Dieu. Mais dès l'instant où je comprends que Dieu m'aime, mon absence d'amour est comblée par son trop grand amour. Et il me dit, ça me donne de l'énergie pour aimer les gens et pour continuer à faire ce que je dois faire, même si parfois je ne sais pas trop ce que je dois faire. Mais je sais qu'il m'aime. Pff, il n'est même pas encore un écrivain. Il n'est pas encore connu sur Charisma Magazine et le New York Times. Il ne prêche pas ici le dimanche. Il n'est pas le grand musicien. Le gars sort une bombe fondamentale pour ma vie et ta vie. Je sers Dieu sans jamais me reposer sur l'amour que je lui porte. Je sers Dieu en me reposant sur l'amour qu'il me porte. Ça, c'est Romains 16.